Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, nouveau ministre, première promesse, les passations de pouvoir ce matin. Gérald Darmanin à l'intérieur, message aux policiers, je serai le premier d'entre eux. Promesse de mettre la sécurité au service des plus fragiles. Et message de celui qui est aussi ministre des cultes, nous devons lutter de toutes nos forces contre l'islamisme politique. À la justice, les premiers mots d'Éric Dupond-Moretti, l'avocat dont une partie des magistrats estime que sa nomination est une déclaration de guerre.
Ce n'est pas le ministère de la guerre, même si j'ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés. J'ai rencontré de très grands magistrats devant qui j'ai eu l'honneur de plaider. Je les respecte. Ils sont humains, indépendants, gourmands du contradictoire. Une chaleur de l'âme, disait Albert Camus.
Et le nouveau ministre cherche à rassurer, il se battra pour l'indépendance de la justice, la réforme du parquet et la PMA. Je ne connais pas la France de la justice de manière technocratique, mais charnellement. Parmi les réactions les plus hostiles à ces deux nominations, les féministes, nous entendrons la socialiste Laurence Rossignol. Hostilité aussi entre le garde des Sceaux et le Rassemblement National. Maxence Lambrecq nous expliquera. Passation de pouvoir, dernier volet dans ce journal, nous irons au ministère de l'écologie. Ce doit être un moteur de la relance et l'affaire de tous les ministres pour Barbara Pompili. Dans l'actualité encore, les résultats de la QV 2020 tellement spéciale du bac. Une étude qui montre que les personnes nées à l'étranger sont plus mortes du Covid en France que les autres. Le tournant autoritaire de la Chine suite un professeur de droit arrêté. Les difficultés économiques après la crise du Covid. Nous allons au musée Rodin à Paris et dans le Pas-de-Calais. À 13h30, ce sera chacun son chemin. Bonjour Élodie Font.
Bonjour Bruno Duvic.
Quel programme, quels invités aujourd'hui Élodie?
Eh bien, savez-vous ce qu'est le biorégionalisme? C'est une invitation à penser les territoires autrement, pas uniquement découpé administrativement. Et on en parlera avec notre invité, l'architecte Mathias Rollo.
Bio-régionalisme, toutes vos questions sur ce thème dès maintenant, 01 45 24 7000. Et l'émission, c'est à 13h30. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
La tendance du jour avec vous.
Alors c'est bien ensoleillé, hein, pas de jaloux, du soleil pour tout le monde, juste quelques nuages inoffensifs au nord de la Loire. Sur le sud-est, on a moins de vent aujourd'hui, pas plus de 60 km/h cet après-midi, et les températures gagnent quelques degrés avec 19 à 27 degrés au nord et jusqu'à 34 au sud.
Bulletin complet à la fin de ce journal, le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Avant le premier conseil des ministres du gouvernement Castex, c'était la matinée des passations de pouvoir. Nous allons place Beauvau d'abord. Christophe Castaner, qui a subi tant de critiques au moment des Gilets jaunes, puis récemment, cède la place à celui dont la carrière en flèche se poursuit, Gérald Darmanin, 37 ans, prend donc le ministère de l'Intérieur, qui est à la fois celui de la police, du renseignement, des cultes et des élections. Poste clé donc pour cet homme qui a travaillé avec Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy et qui est devenu un pilier de la Macronie. La passation de pouvoir. Récit France Inter, Ariane Grissel.
C'est un Christophe Castaner visiblement ému qui a passé le relais. Le désormais ex-ministre a rapidement rappelé son bilan, la gestion du confinement, de la menace terroriste et adressé un dernier message aux policiers, eux qui l'accusaient de les avoir lâchés après ses propos sur le racisme dans leur rang.
Je quitte ce ministère fier de ces femmes et de ces hommes. Les policiers et les gendarmes d'abord. Je les ai défendus à chaque instant. Je ne le regrette pas. J'ai parlé avec franchise aussi de déontologie. Je ne le regrette pas non plus.
Quelques mots aussi à Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, à moins qu'il ne vise indirectement Gérald Darmanin sous le coup d'une enquête pour viol.
Je pense aussi au combat contre les violences sexuelles et sexistes. J'ai aimé partager cet engagement, chère Marlène, avec vous, madame la ministre, pour que nos forces y soient particulièrement sensibles.
Le nouveau ministre de l'Intérieur, lui, a très brièvement salué son prédécesseur avant de redire son soutien aux forces de l'ordre.
Que les forces de l'ordre soient assurées de la profonde reconnaissance du gouvernement, qui ne doute jamais, à aucun moment, du fait que je serai toujours le premier d'entre eux, et que la France et les Français attendent de nous, ici, au ministère de l'Intérieur, que nous soyons un refuge et un exemple.
Une passation de pouvoir à l'écart, dans le calme de la cour du ministère, alors que, dans une rue adjacente, une trentaine de militantes féministes manifestaient contre la nomination de ce ministre aux prises avec la justice.
Oui, car parmi les réactions hostiles à la composition de ce gouvernement Castex, il y a en effet les mouvements féministes, deux ministres dans leur viseur, Gérald Darmanin, on vient de l'entendre, mis en cause dans deux plaintes depuis 2018 pour abus de faiblesse et viol, non-lieu dans la première affaire, l'enquête se poursuit dans la seconde, et Éric Dupond-Moretti, on détaille sa prise de pouvoir dans un instant. Ce qui lui est reproché, ce sont de nombreuses déclarations hostiles au mouvement MeToo. Vous en trouverez la liste sur franceinter.fr. Alors ces deux promotions sont de très mauvais signes pour la sénatrice socialiste et militante féministe Laurence Rossignol.
Je ne préjuge pas des affaires judiciaires de M. Darmanin, encore que les faits sont connus, si la qualification peut prêter à discussion, les faits sont connus, il s'agit d'un échange de faveurs sexuelles contre une intervention par un homme de pouvoir. Dans deux fois, il est mis en cause sur des affaires de ce type. Quant à Dupond-Moretti, il n'a jamais caché son aversion pour tout ce qui est effectivement MeToo, la loi sur le harcèlement de rue. Enfin, quel désaveu pour Marlène Schiappa, par exemple, qui a fait voter la loi sur le harcèlement de rue, que de voir un ministre de la Justice qui a clairement dit tout le mépris qu'il avait pour ce qui était une avancée. C'est une formidable claque au visage de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre les violences sexuelles et sexistes en mettant ces deux ministres aux commandes dans deux postes clés de ces sujets.
Laurence Rossignol ce matin sur France Info. On en vient donc à la prise de fonction d'Éric Dupond-Moretti. Ce matin également, un avocat au ministère de la Justice, avec cette habitude de manier la parole et les émotions. Cela s'est entendu à la fin de son discours particulièrement. Ce moment, dit-il, est pour moi vertigineux.
Je pense en particulier à ma mère qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour arriver ici dans ce grand pays. Elle est devenue une Française de préférence. Et la Marseillaise a fait pleurer. Je serai un garde des sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. Merci à vous.
Un garde des sceaux de sang mêlé, Éric Dupond-Moretti prend ce poste escorté déjà de la méfiance de beaucoup de magistrats. Les relations avocat-magistrat sont parfois houleuses. Le nouveau ministre a par le passé vertement critiqué l'école de la magistrature, le parquet national financier ou encore plaidé pour la scission entre juges et procureurs. Et l'Union syndicale des magistrats parle de déclaration de guerre à propos de sa nomination. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Vous avez assisté ce matin à la passation de pouvoir entre Nicole Belloubet et la nouvelle forte personnalité du gouvernement. Éric Dupond-Moretti, Corinne, cherche à rassurer.
Oui, n'ayez pas peur, c'est ainsi qu'on pourrait résumer le discours d'Éric Dupond-Moretti, accueilli très chaleureusement par Nicole Belloubet en tailleur pantalon Parme. Éric Dupond-Moretti l'a serré dans ses bras, tandis qu'elle versait une larme sous les longs applaudissements de son ministère. Costume noir, cravate bleu marine, c'est de fait un nouvel habit qu'a endossé l'avocat, adressant un message bienveillant à toute la famille judiciaire. Je serai le garde des sceaux du dialogue, j'accepterai la contradiction, a-t-il dit. Je ne fais de guerre à personne, a-t-il martelé en réponse aux propos de l'Union syndicale de la magistrature. Le nouveau garde des Sceaux veut faire évoluer la magistrature vers plus d'ouverture sur la société et porter enfin, a-t-il dit, la réforme du parquet tant attendue pour une plus grande indépendance de la justice. Ses autres chantiers, la présomption d'innocence, trop souvent bafouée, jetée aux chiens, a-t-il dit, un meilleur accueil des victimes, porter les projets sur la PMA, la justice des mineurs. Je pense aux prisonniers, à leurs conditions de vie inhumaines et dégradantes, a-t-il enfin conclu avant de dire son soutien au personnel de l'administration pénitentiaire à qui il réserve sa première visite dès cet après-midi.
Corinne Audouin avec Sandrine Malon en direct du ministère de la Justice pour France Inter. L'accueil du nouveau ministre, accueil houleux, vient aussi de l'extrême droite depuis hier soir. Il est qualifié de militant d'extrême gauche carrément par Marine Le Pen. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Quels épisodes passés, Maxence, explique cette véhémence?
Eh bien, elle a vu monter le FN sur ses terres du Nord. Lui, le natif de Maubeuge, soutient l'île de Martine Aubry. Invité de France Inter il y a 5 ans, à l'heure où Jean-Marie Le Pen est exclu par sa fille, il attaque très fort.
C'est une petite entreprise qui fonctionne pas mal. Lui s'est occupé des juifs, elle s'occupe des musulmans. C'est un parti qui n'est pas républicain, il a été condamné 19 fois.
C'est un parti qui n'est pas républicain?
Ah non, je suis
convaincu. Donc il faut l'interdire?
Ah moi je pense qu'il faut l'interdire. Hein.
10 minutes après sa nomination hier, Marine Le Pen ressortait cet extrait sur Twitter. À la justice est nommé un militant d'extrême gauche, ça promet, lance-t-elle. Pire que Taubira et Belloubet, renchérit Jordan Bardella. Macron nomme celui qui se dit honoré et fier d'être l'avocat d'Abdelkader Mera, en oubliant que Marine Le Pen fut-elle l'avocate de migrants sans papier. Le RN s'inquiète, s'alarme, parce qu'Éric Dupond-Moretti est le premier ministre à avoir déjà écrit sur le RN. Un chapitre intitulé « Dédiabolisation » dans son dictionnaire de ma vie publié en 2018 chez Kero, où il déconstruit cette stratégie portée notamment par son ancien confrère Gilbert Collard. Il maîtrise donc un plaidoyer anti-RN et s'installe à l'endroit idéal pour les affaiblir, car Marine Le Pen se présente de plus en plus comme la garante de l'état de droit, s'attaquant comme lui à la République des juges, dénonçant comme lui le recul de certaines libertés individuelles. Le nouveau garde des Sceaux risque de dégonfler certains certaines de leurs attaques, d'incarner une fermeté, une indépendance, les priver d'un carburant. Et quand la campagne présidentielle démarrera, qui au RN aura envie de l'affronter en débat? À mon avis, ça ne se bousculera pas.
Autre passation de pouvoir, celle entre Elisabeth Borne et Barbara Pompili à la transition écologique. Pour la nouvelle ministre, une information vient lui rappeler, s'il en était besoin, l'ampleur de sa tâche. Le mois de juin 2020 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, à égalité avec juin 2019, un demi-degré au-dessus de la normale, selon le réseau européen Copernicus, et bien plus en Sibérie arctique, où la chaleur le mois dernier inquiète particulièrement les scientifiques. Des pics jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales saisonnières, à 37 degrés selon Copernicus. C'est donc dans ce contexte de dérèglement climatique que Barbara Pompili prend le ministère de l'écologie. Le contexte politique français, c'est la Convention citoyenne qui vient de rendre ses près de 150 propositions, charge à la majorité de les mettre en musique. C'est un plan de relance économique en préparation et c'est un doute persistant sur les convictions écologistes du président de la République. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Bruno.
La passation de pouvoir à l'écologie, la tâche qui attend Barbara Pompili, c'est avec vous Célia.
Oui, et Barbara Pompili n'est pas naïve. Cette passation est en réalité plutôt un passage de relais dans la continuité, ce sont ses mots. Et pourtant, elle devra à la fois tenter de verdir le plan de relance de l'économie pour le rendre plus compatible avec la baisse promise des émissions de carbone. Et ensuite, elle devra traduire en texte de loi ou en projet de référendum les 146 propositions de la Convention climat, alors qu'elle n'y croyait pas vraiment ces derniers mois, lourde tâche.
Nous aurons bien entendu à concrétiser les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, lancée il y a un an, dans un mélange d'indifférence ou de scepticisme, de doute, et j'avoue que j'en partageais certains, mais qui a produit des recommandations d'action claires et concrètes sur lesquelles le président de la République s'est engagé. Mais nous aurons aussi à agir dans un contexte de crise profonde, une crise sanitaire et face à laquelle nous devons nous armer, en adaptant notre système de santé, mais également en intégrant pleinement à nos politiques publiques la santé environnementale. L'État, l'Europe ont réagi avec une vigueur exceptionnelle et le gouvernement travaillera dans les prochaines semaines sur un plan de relance économique dont l'écologie devra être un moteur essentiel. Cela ne se concrétisera que si l'écologie franchit les lourdes portes de cette cour.
Et en effet, elle devra convaincre en premier lieu Bruno Le Maire. Il faudra rectifier ce plan de relance qui ressemble surtout à un chèque massif pour le secteur aérien ou automobile aux yeux des Verts ou des ONG. Le projet de loi de finances devra être adopté en juillet. Ensuite, un plan plus large est attendu à la rentrée pour dessiner ce nouveau chemin écologique et social. Tout va aller très vite pour cette nouvelle ministre. Les prochaines semaines seront décisives si elle veut tout simplement réussir son pari, verdir le gouvernement de l'intérieur.
Et l'homme chargé du plan, c'est Bruno Le Maire à Bercy, ministre de l'économie, des finances et de la relance désormais. Il promet une relance verte, industrielle et tournée vers les plus petits. Parmi les personnalités politiques incontournables que l'on n'a pas entendues depuis hier et la désignation de ce gouvernement Castex, il y a Jean-Luc Mélenchon.
Ceux qui ont des cheveux à se faire aujourd'hui, c'est en effet les Républicains, parce qu'il faut qu'ils fassent la démonstration qu'ils servent à quelque chose, à quoi Macron ne sert pas. Quand même, faudrait qu'on revienne un peu sur le sol des réalités. Le problème d'une élection, c'est souvent par rapport au pouvoir que la question est posée, de savoir s'il y a un assentiment populaire. Bon, voilà, il n'y a pas. Alors, c'est ça qu'on redoute, nous. C'est que la bête blessée soit encore plus violente. Parce que si, pour tout potage à servir à ceux qui sont des observateurs politiques, comme il y en a dans cette pièce, si tout le sujet de conversation, c'est Dupond-Moretti, encore une fois, hein, sans vouloir montrer du doigt M. Dupond-Moretti, mais enfin, c'est pas un sujet qui est capable de mobiliser la ferveur des Français et la mobilisation du pays. Est-ce que vous réalisez qu'on est menacé d'un retour du Covid-19 et qu'on va à une catastrophe sociale dont tout le monde connaît les contours? C'est ça la réponse.
Le nouveau gouvernement, les réactions, les informations et analyses, vous trouverez beaucoup d'autres développements sur franceinter.fr, notamment à propos de Nadia Hay, la nouvelle ministre de la Ville. Pourquoi elle a démissionné très vite de son poste de députée? Eh bien pour ne pas laisser la place à son suppléant qui est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue international. C'est une information France Inter de Cyril Graziani. Enfin, à propos du Ségur de la Santé, maintenant que le gouvernement est constitué, les négociations doivent reprendre ce soir. Et puis une dernière information qui concerne deux anciens du gouvernement et l'un qui y est toujours. La Cour de justice de la République ouvre officiellement une enquête sur la gestion de l'épidémie par Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et l'actuel Olivier Véran.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Jusque-là, parmi les années particulières pour le bac, il y avait 1968, l'examen rituel de fin de lycée perturbé par les manifs à l'époque. Eh bien, 52 ans après, 2020 sera aussi un cru particulier. Les 740 000 candidats découvrent, ou plutôt se voient confirmer, leurs résultats depuis ce matin. Pas d'examen. On prend en compte les notes du premier et du deuxième trimestre. On arrondit les moyennes aux chiffres supérieurs. On invite les jurys d'harmonisation à la bienveillance. Les résultats tombent sur Internet, mais certains lycées, pour garder une partie du rituel, les ont affichés tout de même. C'est le cas à Lyon. Reportage Mathilde Imberti.
Peu d'effusion devant les panneaux d'affichage puisque les résultats étaient disponibles dès 8h30 sur Internet. Les quelques élèves présents viennent retirer leur relevé de notes pour le rattrapage. C'est le cas d'Elsa, terminale S, qui s'estime lésée par le contrôle continu.
Ça m'a beaucoup pénalisé parce que le reste de l'année, j'avais pas mal de problèmes de mon côté qui ne me permettaient pas de bien travailler. J'ai juste vu qu'il me manquait 68 points, un truc à rattraper. Du coup, ça fait quand même beaucoup.
Tu peux effectivement rattraper qu'avec les maths. Mais quand même, il faut y aller. Ouais.
Pour les aider, des professeurs animent des sessions de préparation aux oraux de rattrapage. Marie-Christine Russier en mathématiques.
Dès qu'on a pu déconfiner à peu près, on a ouvert le lycée uniquement pour les élèves de terminale pour lesquels on savait qu'ils allaient devoir repasser une épreuve. Les autres années, moi, ce que je faisais, c'est que le jour des résultats, je les attendais devant le lycée, on se donnait rendez-vous et je travaillais toute la journée avec eux pour préparer l'oral. Là, ils ont eu un mois, oui.
Une version 2020 à tout point de vue exceptionnelle, ce n'est pas pour autant un sous-bac, d'après le proviseur Bernard Rosier.
On a eu l'effet coronavirus qui est passé par là et donc on n'a pas voulu non plus les pénaliser. Les pauvres, ils y sont pour rien. On a donné le coup de pouce quand on pensait qu'ils le méritaient. Moi, je ne le qualifierais pas de bac au rabais. C'est un bac différent.
Différent avec un taux de réussite nettement supérieur à l'an dernier au lycée Juliette Récamier. Sur 170 élèves, 90% obtiennent leur bac dès aujourd'hui. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Les oraux de rattrapage se tiennent entre demain et vendredi. Ceux qui échoueront au rattrapage, mais pour lesquels les semaines passées ont été particulièrement difficiles, ils ont été malades ou ont perdu un proche, auront une seconde chance en septembre. À Bayonne, le pronostic vital du chauffeur de bus reste engagé au lendemain et surlendemain de son agression. 5 personnes restaient en garde à vue hier soir, soupçonnées de l'avoir tabassé dimanche, alors qu'il refusait de les laisser monter dans le bus sans masque et avec un chien. Les chauffeurs de l'agglomération exercent leur droit de retrait. La circulation des bus est fortement perturbée aujourd'hui. Près de 7 mois après l'apparition du Covid en Chine, les scientifiques continuent évidemment de travailler sur ce virus et comment il se transmet. Et des dizaines de scientifiques internationaux appellent l'Organisation mondiale de la santé à reconnaître une nouvelle, entre guillemets, voie de transmission. Ce qui est admis, c'est que le virus est principalement transmis par des gouttelettes, la toux, les éternuements, les postillons quand on parle. Mais selon ces scientifiques qui co-signent un article dans une revue médicale d'Oxford, les indices s'accumulent pour une transmission aérienne du virus, autrement dit des particules microscopiques très légères que l'on expire, qui restent dans l'air, air intérieur en particulier, et que d'autres personnes peuvent inspirer. Autre étude, elle concerne spécifiquement la France. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
C'est une étude de l'INSEE. En France, les personnes nées à l'étranger ont subi une mortalité plus forte à cause du Covid.
Et oui, ce sont ces personnes nées à l'étranger qui paient le plus lourd tribut des 129 000 décès de mars et avril, plus 54% pour celles nées dans les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, 3000 morts de plus pendant ces deux mois par rapport à l'an dernier et c'est plus 114% chez celles nées dans un autre pays d'Afrique. Alors ces victimes du Covid, qui sont-elles? D'abord, elles habitaient dans des régions fortement touchées, l'Île-de-France en particulier, c'est le principal lieu habituel de résidence des personnes originaires d'Afrique. Et puis elles composaient la majeure partie de ce qu'on a appelé les travailleurs essentiels ou les travailleurs clés, livreurs, agents de nettoyage, aides-soignants, ceux grâce auquel le pays a pu continuer à produire, s'alimenter, à ne pas être totalement figé, mais ceux qui étaient donc davantage exposés. Démonstration qu'il s'agit également d'une maladie sociale. Ces personnes étaient à risque aussi à cause de l'exiguïté de leur logement qui favorisait la contamination. Il y a un mois, une autre étude de l'INSEE avait déjà démontré une surmortalité en Seine-Saint-Denis, département où résident beaucoup de personnes originaires d'Afrique du Nord, une surmortalité de 130%. Alors il faudra tenir compte de ces données si le virus recommence à circuler plus intensément pour mieux cibler ces personnes à haut risque.
D'autres détails sur cette étude sur franceinter.fr. Merci Daniel. vaccinale à l'étranger, même si Donald Trump affirme toujours qu'elle est sur le point de s'achever. L'épidémie continue de flamber, plus de 130 000 morts désormais. Le bilan continue de s'alourdir en Inde aussi. En Australie, Melbourne, 5 millions d'habitants reconfinent à partir de la nuit prochaine et pour un mois et demi. En Iran, 200 morts en 24 heures. Et puis au Brésil, on doit connaître dans la journée les résultats du test subi par le président Bolsonaro qui présente des symptômes. En Europe, les conséquences économiques de la crise et des confinements sont plus lourdes que prévu. Dernière prévision de la Commission européenne, le PIB de la zone euro devrait chuter de près de 9% cette année, chute de plus de 10% en Italie, en Espagne et en France, selon la Commission qui espère un rebond de plus de 6% l'année prochaine dans cette zone euro. En Chine, aucun nouveau cas à Pékin ces 24 dernières heures, ce qui inquiète au moins autant la communauté internationale que le virus. C'est le virage encore plus autoritaire pris par la Chine en cet été 2020. Dernière manifestation en date, Dominique André, l'arrestation d'un professeur de droit un peu trop critique au goût de Xi Jinping.
Xu Zhongjun, grand professeur de droit, avait fait du bruit en juillet 2018 en publiant un texte qui critiquait la réforme de la Constitution, ouvrant la voie à un nombre de mandats illimité pour le président chinois. Dans son article, l'universitaire expliquait que cette décision faisait reculer la Chine à l'époque de Mao Tse-tung. Le professeur avait été suspendu de ses fonctions d'enseignant à Tsinghua en mars 2019. Xu Zhongjun a continué d'écrire sur son souhait de voir une réhabilitation des événements de 89, ce qui a fortement déplu. Il a été arrêté hier, chez lui, dans la banlieue de Pékin. Sur Twitter, la sociologue chinoise Guo Yuhua défend son collègue qui aurait été arrêté dans une affaire de prostitution.
Je suis en colère, cette histoire est absurde. Les policiers ont pris du temps, ils se sont creusé la tête pour inventer ce prétexte qui cache leur crime de persécution politique. Dans le cadre de la loi, il a le droit de publier des textes, d'exprimer ses opinions, ses pensées. De quoi est-il coupable? Il a signalé les problèmes sociaux et les a critiqués, qu'est-ce qui ne va pas?
Selon son entourage, le professeur Xu pourrait être relâché à la fin de la semaine, mais là encore sans confirmation officielle. Pékin, Dominique André, France Inter.
Dans la série Raidissement chinois, les autorités de Hong Kong demandent aux écoles de ne plus utiliser les manuels qui violeraient la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Les effets de cette loi se mesurent progressivement. Les pouvoirs de la police en sortent considérablement renforcés. Perquisitions sans mandat, contrôle renforcé sur Internet. Google, Facebook et Twitter promettent qu'ils ne répondront plus aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs émanant des autorités de Hong Kong. Autre réseau social, TikTok, annonce suspendre son application à Hong Kong. Un autre pays où faire usage de la liberté de parole, c'est prendre des risques pour sa vie, c'est l'Irak. Un spécialiste des mouvements djihadistes régulièrement présent dans les médias irakiens a été assassiné hier soir. Il s'appelait Hicham Al-Hashemi, tué de plusieurs balles dans la tête devant son domicile à Bagdad. Omar Waman.
Lors de l'une de ses dernières apparitions à la télévision sur la chaîne saoudienne Al Arabiya, Hicham Al-Hashemi analysait la menace grandissante des factions chiites irakiennes, ces groupes extrémistes inféodés à l'Iran, à l'origine en septembre dernier d'une violente campagne de cyberharcèlement contre lui, menacé de mort, photo à l'appui. Ces milices chiites n'étaient pas les seuls à s'en prendre régulièrement sur les réseaux sociaux à ce père de famille de 47 ans. Hicham Al-Hashemi était également dans le collimateur des groupes djihadistes sunnites comme Daesh, qui l'accusait d'être à la solde d'Israël ou des Américains. Bien introduit dans tous les milieux confessionnels, il livrait ses informations et analyses sur les plateaux de télévision locales et internationales, mais aussi pour de nombreux centres de recherche. Ces dernières années, il était même devenu consultant pour plusieurs chancelleries. Hicham Al-Hashemi était tout simplement devenu incontournable. Ses prises de position retentissantes. Dernièrement, il avait pris fait et cause pour les milliers de jeunes qui manifestent depuis des mois contre la corruption et la mainmise de l'Iran sur leur pays.
Voilà pour ce récit d'Omar Waman. On parlait tout à l'heure du plan de relance en France. En Grande-Bretagne, le gouvernement mise sur l'isolation des bâtiments pour verdir l'économie et lutter contre le changement climatique. Un plan de plus de 3 milliards doit être présenté demain. En Italie, plan présenté aujourd'hui, il passe par un choc de simplification dans un pays encore très embourbé dans les lourdeurs administratives et regardé de près par les partenaires européens puisque Rome est le premier bénéficiaire du plan de soutien européen. On en vient aux conséquences économiques en France des semaines de déconfinement, de confinement et de déconfinement. Des établissements économiques, culturels ou de loisirs peinent à retrouver l'équilibre, voire l'ont perdu. Deux fermetures définitives ont été annoncées ce matin. Le dernier magasin Tati à Paris, quartier Barbès, et puis la Cité internationale de la gastronomie à Lyon. Les zoos et aquariums souffrent eux aussi. Pendant le confinement, les coûts de fonctionnement, soins aux animaux, maintenance restaient élevés. Et pour certains établissements, les finances sont dans le rouge. Reportage France Inter dans le plus grand aquarium d'Europe, Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Faustine Calmel.
Après 2 mois et demi de fermeture, l'aquarium a rouvert le 4 juin dernier. Et il était temps, les caisses étaient quasiment vides. Aucune rentrée d'argent pendant le confinement, alors qu'il a fallu continuer à s'occuper des 60 000 animaux.
Pour eux, rien ne changeait.
Dominique Malvoie, responsable aquariologie.
Donc il fallait continuer d'entretenir quand même les aquariums, de les nourrir, de vérifier les paramètres de la qualité d'eau, de s'occuper des filtrations, etc. Donc toute cette partie d'activité aquariologique a continué.
70 personnes sur les 250 salariés ont été placées en chômage partiel, mais ça n'a pas suffi à maintenir les finances à flot. La communauté d'agglomération du Boulonnais, actionnaire principal, a octroyé une aide d'urgence, 4 millions d'euros. De quoi sauver cette année, mais Philippe Valette, directeur général, reste prudent.
On apparaît au plus pressé, c'est-à-dire qu'on ne déposera pas le bilan. Après, il faut travailler sur 2021 et 2022, parce que ce n'est pas le tout de faire des emprunts, il faut ensuite les rembourser. Et donc, il faut regarder comment on peut mettre en place un dispositif qui permette de ne pas faire exploser notre modèle économique qui fonctionne depuis 29 ans. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Cela passe par transformer les prêts à court terme en long terme et relancer la fréquentation. Nausicaa table sur 450 000 visiteurs en 2020, moitié moins que l'année dernière.
À Paris, après le Louvre, hier, le musée Rodin rouvre ses portes aujourd'hui. La particularité de ce musée, Isabelle Pasquier, c'est qu'il ne touche pas de subvention, ce qui rend l'équation financière au moment de la reprise encore plus délicate.
Pas de subvention et avec 75% des visiteurs du musée Rodin qui sont des étrangers, autant dire que la billetterie se porte très mal alors qu'elle rapporte en temps normal 3,5 millions d'euros. La privatisation des lieux aussi est à l'arrêt et rapporte habituellement 1 million d'euros. Bilan, le musée évalue la perte à plus de 3 millions d'euros. Conséquence, le musée se voit obligé de faire fondre de nouveaux bronzes de Rodin pour les vendre en France et à l'étranger à des musées, fondations et galeries comme Gagosian à Londres, ce qui n'est pas exceptionnel car le musée Rodin fait régulièrement fondre une nouvelle sculpture tant pour équilibrer son budget que pour faire rayonner l'œuvre du sculpteur. Le musée est l'ayant droit de Rodin et chaque sculpture peut être répliquée en 12 exemplaires des éditions originales de bronze. Les bourgeois de Calais, Balzac et Le Penseur ont atteint leur quota de nombre d'éditions, mais la Porte de l'Enfer, qui peut être encore rééditée 3 fois, pourrait sauver Rodin du purgatoire.
Avant la météo, faut-il vous rappeler que les grandes vacances ont commencé vendredi dernier, que les centres aérés reprennent du service. Nous allons dans un centre un peu particulier à Villeneuve-les-Maglones. Ici, les animateurs sont policiers et accueillent chaque été plus de 1000 enfants tous les ans. Et depuis 23 ans, le centre prend en charge ces gamins venus du quartier de la Paillade à Montpellier. Hugo Charles.
Des jeunes encadrés par la police à la plage. Et si en plus des journalistes sont là, ça donne ça.
Avec le coffre, c'est bien en vérité. Mais il y a certains policiers qui ne sont pas gentils avec nous. Ils nous frappent des fois, on ne fait rien.
Mais dès que les micros s'éloignent, retour à la normale. Il s'agit bien d'un centre de loisirs presque comme les autres.
On a la possibilité de rigoler avec eux des fois. Ils nous ramènent à la plage, on joue avec eux. Ils nous ramènent faire du paddle, du canoë, on s'amuse.
Ça te permet de sortir et d'apprendre de nouvelles choses. Ça change les vacances avec papa et maman.
Ces jeunes se connaissent pour la plupart. Ils connaissent aussi les policiers qui les encadrent.
Ils savent très bien qu'on est policiers parce qu'on les recroise aussi dans les établissements scolaires. Et du coup, il y a une continuité au niveau des règles et puis de la loi. Les enfants qu'on a revus en patrouille, en général, ils font pas de bêtises. Au moins, ils apprennent les règles de base, l'éducation qu'il faut connaître tout au long de sa vie. Et je pense que c'est indispensable dès l'âge de 6 ans.
Ces centres aérés un peu particuliers permettent aussi de susciter des vocations.
Je crois que professionnellement, on en a certains qui ont réussi, qui sont rentrés chez nous simplement en tant que policiers ou qui sont rentrés à la TAM. C'est une réelle fierté de voir ces jeunes qui réussissent.
En plus de créer du lien entre jeunes et policiers, ce centre aéré a aussi une véritable vocation sociale puisqu'il ne coûte que 5 euros par semaine par enfant.
Un soleil dans la région de Montpellier aujourd'hui et partout ailleurs à vrai dire.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules.
Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité. Élodie Calac.
Une belle journée, beaucoup de soleil partout. Au nord de la Loire, on trouve tout de même quelques nuages décoratifs. Ça ne gâche pas l'impression de beau temps. Sur le sud-est, le vent faiblit. Tramontane, Mistral ne dépasse plus les 60 km à l'heure. Pareil pour le vent de nord-est sur le nord de la Corse. Les températures s'orientent à la hausse. 19 degrés à Cherbourg, 21 à Lille, 24 degrés à Paris, à Nantes, 25 à Strasbourg, à Bourges, 27 degrés à Dijon, Lyon ou Bordeaux, 28 à Toulouse, 30 à Bastia. Ça monte jusqu'à 33 degrés à Marseille et même 34 à Montpellier. Demain, une perturbation s'invitera près de la Manche et des frontières du Nord avec quelques pluies sur le Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, encore du soleil et quelques degrés de plus.